C'est vrai que pour mon épouse Laurence, elle revient 50 ans après dans cette salle, parce qu'elle a fait son école du dimanche ici, jusqu'à ce qu'elle remplace l'école du dimanche par le café le dimanche matin, et qu'elle entre dans une période de révolte qui, ça peut encourager certains qui ont des enfants éloignés, qui a pris fin lorsque nous nous sommes convertis. Amen. Et voilà, son papa, Paul Arnera, peut-être des anciens l'ont connu, voilà. C'est la troisième et dernière fille de Paul et Madeleine Arnera. Voilà, j'aimerais vous inviter à prier. Seigneur, dispose nos cœurs à recevoir ta parole. Merci pour ton Saint-Esprit qui la vivifie, qui fait que ta parole est de toute façon éternelle, vivante, permanente, s'adapte à toutes les générations, y compris au XXIe siècle. Parle à nos cœurs et viens réveiller nos cœurs ce matin. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. En fait, comme vous êtes dans cette célébration du réveil, du 200e anniversaire, de ce réveil de Genève, j'ai pensé que c'était intéressant pour moi qui suis pas forcément un historien au départ, de parler d'aujourd'hui. Quel réveil pour aujourd'hui? Et j'aimerais parler en fait des caractéristiques d'un vrai réveil. Je souligne d'un vrai réveil. Mais je pense que on a un texte intéressant pour introduire dans Jérémie 6, au verset 16, quand il est écrit: Ainsi parle l'Éternel, Jérémie 6, 16, placez-vous sur les chemins, regardez et demandez quels sont les anciens sentiers. Quelle est la bonne voie? Marchez-y et vous trouverez le repos de vos âmes. Et si j'ai pris ce texte, c'est à cause des anciens sentiers. Je crois que les réveils du passé ont beaucoup de choses à nous dire, qu'on n'est pas appelé seulement à les commémorer, mais à prier pour vivre à nouveau le même genre d'expérience, le même genre de transformation. Autrement dit, d'après Jérémie 6,16, moi j'aimerais dire apprendre des réveils du passé. Et je dis cela parce qu'aujourd'hui, on constate parfois, je ne dis pas que c'est partout non plus, de faux réveils. Ou des réveils qui sont basés avant tout sur des manifestations spirituelles et qui sont centrés sur les besoins de l'ego, qui sont adaptés aux besoins émotionnels, aux besoins, j'oserais le dire, un peu égocentriques de nos sociétés actuelles. Mais quels sont les signes et à partir de là les fruits d'un vrai réveil? Alors, comme on est aussi dans l'anniversaire de la réforme, bien évidemment, le premier point, j'ai trois points, c'est un retour à la parole de Dieu. Vous allez me dire, on n'a pas lâché la parole de Dieu, ça je m'en doute. Mais quand je parle d'un retour à la parole de Dieu, c'est d'un retour au désir de vivre le psaume 119, qui est très long. En principe, personne ne le sait par cœur. Mais qu'on peut résumer par fais-moi vivre selon ta parole. N'est-ce pas? Qu'une prière courte, mais qui contient le principal. Et dans 2 Timothée 3,16, dans la deuxième épître à Timothée, chapitre 3, verset 16, on connaît bien Jean 3,16, il faut connaître aussi 2 Timothée 3,16 et 17, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Dans quel but? Afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Accompli et propre à toute bonne œuvre. Donc, dans le but d'une croissance spirituelle et de faire du bien aux autres et de leur apporter le témoignage de Jésus. Un retour à la parole parce qu'il y a beaucoup trop de livres. Je vais souvent à la maison de la Bible, je vais souvent à la librairie L'Eau Vive. Il y a beaucoup trop de livres. Il y a je ne sais combien de livres sur le même sujet. Et il y a tellement d'enseignements aussi pour la génération actuelle et de prédications sur Internet. Des très bons, mais aussi des fausses doctrines. Des choses bibliques et des choses bizarres. Donc, le retour à la parole de Dieu, aujourd'hui, est important. Parce qu'on peut lire des livres extraordinaires et des livres qui nous font le plus grand bien, c'est sûr. Mais ce ne sont pas la Bible. Ce ne sont pas la parole de Dieu. C'est la parole d'un homme qui a rencontré Dieu, d'un homme qui enseigne de la part de Dieu, mais restons à la parole véritable. Un retour à la parole de Dieu. Et au fait de vivre selon la parole. Un deuxième point, c'est la conviction de péché par le Saint-Esprit. La conviction de péché par le Saint-Esprit. On nous dit, il y a un réveil ici, il y a un réveil là, mais des fois on ne voit pas la conviction de péché. La conviction de péché par le Saint-Esprit était tellement forte dans certains réveils du passé, comme au Pays de Galles en 1904 par exemple, ou dans d'autres réveils précédents aussi. Dans Jean 16, verset 8, Jésus dit bien, « Quand il sera venu, l'Esprit de vérité, il convaincra le monde de péché. » Mais moi je pense que le Saint-Esprit, il va commencer par l'Église. Avant même de convaincre le monde du péché principal qui est de ne pas croire en Jésus. C'est ce péché-là qui est dangereux pour l'éternité, n'est-ce pas? Puisque c'est seulement Jésus qui nous sauve. Mais nous avons besoin de cette conviction de péché. Et nous, l'Église, nous avons besoin d'une conviction de péché peut-être plus profonde. Parce bien sûr qu'il y a des choses que nous ne faisons plus, que nous ne sommes censés plus faire, mais plus pratiquer. Mais lorsqu'on lit dans Ésaïe 6, naturellement, vous allez me dire, Ésaïe se trouve avec une vision de la sainteté de Dieu, du trône de Dieu, de la gloire de Dieu. Mais on n'a peut-être pas besoin d'une vision aussi puissante pour avoir cette conviction de péché, mais simplement d'avoir une réalité de la présence de Dieu. Et alors on va dire comme Ésaïe au verset 5 dans Ésaïe 6, « Malheur à moi, je suis perdu car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. » Et c'est vrai que nous, dans nos milieux évangéliques, chrétiens et autres, eh bien, certes, en principe, il n'y a plus d'adultère, par exemple, en principe, on ne garde pas du ressentiment pendant des années, en principe, on arrive à régler les péchés de base, on n'a plus rien à voir avec ce qui est idolâtre, ésotérique ou autre, hein, n'est-ce pas? Mais par contre, nos bouches, nos jugements, nos critiques, certaines de nos paroles. Ce qui est intriguant, ce qui est interpellant dans Ésaïe 6, c'est « Malheur à moi, car mes lèvres sont impures et j'appartiens à un peuple dont les lèvres sont impures. » Il parle que des lèvres, que de la bouche. Mais c'est vrai que c'est des péchés qui passent peut-être plus facilement ou qui demeurent plus facilement que d'autres, parce que nous sommes encore bien humains et des fois nous disons des paroles qu'il ne faudrait pas dire dans certains moments de nos vies. David, dans le psaume 51, nous montre vraiment une prière de repentance extraordinaire. On sait qu'il a fait des choses graves, adultère et meurtre, mais et qu'il n'a pas eu tout de suite cette conviction de péché. Il a fallu que le prophète Nathan, par une belle parabole, le fasse réagir, afin qu'il réalise ce qu'il avait fait vraiment. Mais sans parler de péché aussi grave, on peut prendre exemple sur cette prière de repentance, cette conviction de péché qui est là. Quand il dit, psaume 51, verset 4 à 6, « Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. » Et il dit, « J'ai péché contre toi seul. » J'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Au verset 9, purifie-moi avec l'hysope, je serai pur. Maintenant, on dirait purifie-moi par ton sang, Seigneur Jésus. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Et ça, c'est la confession des péchés, première partie de la repentance. Deuxième partie de la repentance, c'est la prière pour changer. Quand on arrive au verset 12, « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. » Et nous avons besoin encore d'avoir ce cœur pur, puisque c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et dans la même bouche, il peut y avoir des paroles de louange, puis d'autres paroles qui ne sont pas forcément des louanges. « Crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé à t'obéir, à vivre selon ta parole, à faire ta volonté, à vivre sous la conduite de ton esprit. » Vous connaissez, ne me rejette pas loin de ta face, de ta présence, ne me retire pas ton Esprit Saint. Cette peur que le Saint-Esprit s'éloigne de lui, c'est vraiment une prière extraordinaire parce qu'il prie pour changer maintenant. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Amen. Alors je crois qu'on a besoin de voir ça. Cette conviction de péché qui entraîne la repentance. La conviction de péché entraîne la repentance. Dans Actes 3, 19, il est bien écrit « Repentez-vous et convertissez-vous afin que vos péchés soient effacés. » Et on arrive vers le verset 20 « Et que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. » Donc les bases pour avoir un temps de rafraîchissement, c'est d'être toujours dans cet esprit de repentance, dans cet esprit où on arrive à s'examiner soi-même, à se tourner vers le Seigneur et à laisser l'Esprit travailler dans nos cœurs. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Amen. Et on aura des temps de rafraîchissement qui découleront, je crois, de cette conviction de péché qui entraîne la repentance et qui entraîne un deuxième point, une deuxième chose, la sanctification. La sanctification vient aussi de la conviction de péché. Regardez dans Romains 13, une base du réveil, un fruit du réveil, une base dans Romains 13, lorsqu'il est écrit au verset 14, je le prends en cours de route, à mi-verset, le verset 11, « C'est l'heure de vous réveiller du sommeil. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru, parce que nous sommes dans les temps de la fin, mes amis. Et le salut est complet lorsque Jésus vient. La nuit est avancée, le jour approche, c'est le jour du Seigneur. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement, honnêtement, comme en plein jour. C'était abordé dans l'introduction avec l'idée de l'automne, de la lumière qui diminue. Marchons honnêtement, comme en plein jour, même si on est dans les ténèbres, comme en plein jour, même si on est dans un monde ténébreux, je dirais. Loin des excès de l'ivrognerie, de la luxure, de l'impudicité, des querelles et des jalousies. C'est vrai que la luxure, en principe, l'impudicité, l'ivrognerie ne font plus partie de nos vies, mais les querelles et les jalousies peuvent arriver encore si facilement. On voit juste avec quelques querelles, quelques jalousies, des divisions d'église. J'en ai vécu, d'autres en ont vécu. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Ce verset est complètement à contre-courant au XXIe siècle. Vous ouvrez un magazine, vous regardez la télévision, tout est fait, tout est centré sur prendre soin de notre chair. Vous avez remarqué ? Les liftings, pour ceux qui ont l'argent, les régimes ou les obsessions, justement, certains sont trop minces, d'autres sont trop gros, l'aspect extérieur, et on s'occupe de la chair, on s'occupe du corps et pas beaucoup de l'âme, n'est-ce pas ? Mais nous voulons aller à contre-courant de ce monde. Alors nous voulons pas négliger notre corps, mais nous voulons que notre âme soit restaurée par le Seigneur et soit sanctifiée par sa parole et par son esprit. Amen. Dans le livre « Le réveil qu'il nous faut », qui est un classique, peut-être certains le connaissent, de Oswald Smith, je lis quelques passages parce que c'est vraiment intéressant. « Il existe de nos jours, disait-il, un autre évangile beaucoup trop populaire, hélas, et qui exclut le plan divin de conviction de péché et de repentance, exigeant uniquement du pécheur qu'il reconnaisse sa culpabilité, puis encore, parce que la culpabilité, des fois, c'est vu comme quelque chose qui doit être soigné. Alors, c'est vrai, quand c'est une culpabilité fausse et accablante, qui est l'œuvre de l'accusateur, mais lorsque c'est la conviction de péché, elle aboutit à une vraie repentance, n'est-ce pas ? Ainsi que l'œuvre parfaite et toute suffisante de Christ dans la rédemption. Cette position, une fois prise, on dit au pécheur d'aller en paix, de se réjouir dans l'assurance que tout est désormais en règle entre lui et Dieu, et l'on crie « paix, paix » là où il n'y a pas de paix. Ces fausses conversions, conversions à fleur de peau, constituent l'une des raisons pour lesquelles tant de chrétiens professant déshonorent Dieu par une vie inconsistante et jettent l'opprobre sur l'Église, ou parfois même retombent dans leurs anciennes habitudes de mondanité et de péché. Très intéressant. Nous avons besoin de prier pour que la conviction de péché revienne, parce que nous sommes dans un monde qui est complètement opposé à cela. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais la mentalité dans notre société actuelle, c'est une mentalité de victime. Alors certes, il y a des réelles victimes. Je ne discute pas d'une femme qui a eu un abus sexuel, d'un enfant qui a été maltraité, de victimes des terribles épreuves de la société et souffrances qu'on connaît dans ce monde. Mais il y a des gens qui sont tout à fait très bien, mais tout ce qui leur arrive, c'est de la faute des autres. Et il y a une difficulté à s'examiner soi-même, sonde moi ô Dieu et connais mon cœur, et à partir de là déclencher une conviction de péché et de repentance, parce que si c'est toujours de la faute des autres, quelque part c'est jamais de la nôtre. Et Jésus ne nous attend pas avec une mentalité de victime, il nous attend avec nos péchés pour nous purifier, pour nous restaurer, pour nous transformer par sa parole et par son esprit. Je passe au troisième point. Un amour renouvelé pour Dieu et pour notre prochain. Dans Luc 10, 27, c'est un des nombreux textes du Nouveau Testament, de l'Évangile, où on reprend ces textes de l'Ancien Testament, le premier et le deuxième commandement. Le premier, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Et le deuxième, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et je crois dans un vrai réveil, par l'action du Saint-Esprit, le premier et le deuxième commandement sont renouvelés. J'ai du reste un témoignage que j'ai vécu assez dans le début de ma conversion, de ma vie en Christ, avant d'être pasteur, tout cela. Mais une fois, j'ai commencé à prier, j'ai dit, j'avais découvert ces deux commandements, enfin j'ai pas seulement lu, mais découvert, et j'ai dit, Seigneur, j'aimerais vraiment ça, j'aimerais t'aimer tout mon cœur, j'aimerais t'aimer toute mon âme. Alors je priais pour aimer Dieu, parce que vous savez, tout vient de Dieu. Donc même l'amour pour Dieu, c'est lui qui nous le donne. Et je priais pour aimer Dieu davantage. J'ai prié comme ça pendant 3 semaines, 1 mois, et lors d'un culte, alors qu'il n'y avait, je dirais pas rien de particulier dans ce culte, mais j'avais pas été particulièrement plus touché qu'une autre fois par la prédication, par la louange, mais il y avait même eu des baptêmes dans ce culte. Et au moment de la Sainte Cène, comme ça, gratuitement, au moment où la Sainte Cène arrive, le Saint-Esprit me visite. Mais au point que j'étais ému et que j'ai eu quelques pleurs. Alors vous direz, pour certains qui sont très émotifs, parce qu'on est une société où les gens sont très émotifs actuellement, où expriment beaucoup leurs émotions. Je parle de la nouvelle génération. Ça n'a rien d'extraordinaire, mais pour moi, ça avait quelque chose d'extraordinaire. Parce que, à l'âge de 13 ou 14 ans, j'avais dit, je ne pleurerai plus. Suite à un événement, des problèmes familiaux, et quand vous avez votre propre tante qui empoisonne votre chien, alors que votre chien, vous l'aimez beaucoup, à cet âge-là, ça marque. En tout cas, moi, ça a été le cas. Et je me suis endurci et j'ai dit, je ne pleurerai plus. Et je suis arrivé. Mais ce jour-là, le Saint-Esprit m'a touché. Et je sais que Dieu m'a dit ce jour-là. Je n'ai pas entendu sa voix audible, mais il m'a dit, tu sauras. Parce qu'il savait que j'avais prié depuis 1 mois pour l'aimer davantage. Qu'en amour, ça sera toujours moi le premier. Si nous l'aimons, c'est parce qu'il nous a aimés le premier. Mais prions pour l'aimer en retour de son amour. Prions pour l'aimer plus. C'est vraiment important qu'on aime Dieu, qu'on ait un amour renouvelé pour lui, C'est vraiment important parce que nous sommes dans les temps de la fin, de plus en plus. On se rapproche d'une société qui devient toujours plus folle, on dira, si j'ose prendre ce mot sans vous choquer. Et dans Matthieu 24, au verset 12, il est écrit quoi ? À cause des progrès du péché, de l'augmentation de l'iniquité, l'amour du plus grand nombre se refroidira. L'amour du plus grand nombre se refroidira. Et vous allez me dire, dans toutes les générations, dans toutes les époques, il y a eu des péchés, hein. On n'a rien inventé. Les Grecs étaient dans la débauche, les Romains aussi. Il y a eu de l'occultisme et l'idolâtrie bien avant Jésus-Christ et tout cela, bien sûr. Mais à l'heure actuelle, il y a un progrès. Parce qu'avec Internet, avec tout ce qui est proposé, tout est mis au grand jour, tout est toléré, tout devient normal. Ce que la Bible traite d'anormal, la société dit « c'est normal ». Et n'importe quel enfant peut aller sur Internet et voir peut-être le meilleur, mais peut-être le pire. Et dans la pornographie et dans le satanisme, par exemple. Donc, que notre amour ne se refroidisse pas. Que notre amour soit renouvelé. C'est un sujet de prière, non ? L'amour pour Dieu aura un fruit aussi. Comme la conviction de péché donne la repentance, la sanctification, l'amour pour Dieu, à mon avis, ça donne une adoration, une consécration renouvelée. Une adoration qui vient du cœur, une adoration qui n'est pas une habitude avec un vocabulaire qu'on a, qui est biblique, qui est beau, mais une adoration renouvelée de tout notre cœur. Une adoration qui est mêlée d'une nouvelle consécration, parce qu'il y a ce culte qui est défini dans Romains 12, 1, « Par les compassions de Dieu, je vous exhorte à offrir vos corps, votre être tout entier, en sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Une nouvelle consécration. Que ma vie, il y a un cantique qui le dit dans des nouveaux cantiques, que ma vie soit une adoration. Que mon adoration ne soit pas que des mots, que par ma vie je puisse être dans une nouvelle adoration et consécration. Et puis le deuxième commandement, tu aimeras ton prochain comme toi-même, ben l'amour pour le prochain devrait entraîner cette compassion pour les perdus. Cette compassion pour cette société qui s'enlise, pour cette société polluée. Parce qu'autant le monde est pollué, malgré que Trump n'y croit pas, au réchauffement climatique, l'être humain est pollué par cette progression du péché et cette tolérance du péché. Et on appelle mal ce qui est bien, bien ce qui est mal, on mélange tout. Et dans Hébreux 5, verset 2, j'aime bien ce verset, il est dit que le sacrificateur, puisqu'on est tous des sacrificateurs, hein, celui qui nous aime, qui nous a délivré de nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu le Père, nous sommes tous des sacrificateurs. Des intermédiaires entre Dieu et l'être humain qui ne connaît pas Dieu par notre intercession, on va le voir, mais il y a dans Hébreux 5, 2 cette parole, il faut que le sacrificateur, il ait aussi de la compréhension, on pourrait dire aussi de la compassion, de l'indulgence pour les ignorants et les égarés, étant lui-même sujet encore à des faiblesses, n'étant pas devenu parfait. Et j'aime bien ce texte parce que on voit ce monde, les ignorants et les égarés. Bibliquement, ils sont ignorants et égarés. Et on a envie, en tout cas moi, j'ai encore envie, j'aimerais ce renouveau, je me prêche à moi-même autant qu'à vous, de compassion. Cette compassion qui animait Jésus lorsque dans Matthieu 9, au verset 36, il est dit qu'il a été ému de compassion en voyant cette foule qui était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont pas de berger. Et nous, on voit des horreurs aux informations, on voit les dégâts des ouragans, des tremblements de terre, mais on voit surtout ces migrants qui arrivent et ceux qui n'arrivent pas. On voit ces problèmes de société épouvantables. Et pour finir avec tout ce qu'on voit, on s'y habitue. Et on a besoin d'être renouvelé de compassion. On ne peut pas aider tout le monde, on ne peut pas... Mais on a besoin de cette compassion qu'avait Jésus, qui se manifestera de cette manière-là, c'est que le Saint-Esprit pourra nous donner une émotion de compassion ou attirer notre regard ou notre cœur vers une personne peut-être que nous allons rencontrer, que nous allons côtoyer. Et il est important qu'on prie pour garder cette compassion, parce que je crois que le témoignage de la religion véritable qu'est le christianisme, c'est l'amour. C'est l'amour pour Dieu, l'amour pour le prochain et la compassion pour celui qui est dans la souffrance. Alors l'amour pour le prochain se traduit par de l'intercession. Je crois que l'amour renouvelé pour le prochain et la compassion pour ceux qui souffrent et qui sont ignorants, égarés, perdus, on va dire en perdition, eh bien, c'est ce qui va renouveler notre intercession. Je le dis parce que je sais que dans nos églises, ben, l'intercession des fois, on appelle intercession une intercession où on prie pour quantité de frères et sœurs. Alors je ne dis pas qu'il ne faut pas prier pour les uns pour les autres. Pour le frère un tel qui est à l'hôpital, pour la sœur qui a cette difficulté, pour le couple qui est en crise, pour l'un des enfants du couple un tel qui est éloigné de Dieu, complètement en révolte, pour d'autres choses, pour votre pasteur, pour les anciens, pour les autres communautés peut-être aussi, pour les autorités de la ville de Genève. Notre intercession va là, mais je crois que l'intercession, elle a besoin d'être renouvelée pour les personnes qui sont aveuglées, ignorantes, égarées et qui sont perdues. N'est-ce pas? Nos sujets de prière sont des fois trop remplis de nous-mêmes, si j'ose dire. Et il n'y a pas assez de place pour l'extérieur. Parce que nous aimerions encore que Dieu visite Genève dans ses anniversaires de la Réforme et du 200e du Réveil de Genève. On aimerait encore voir une visitation à Genève pour que la population soit atteinte au travers des disciples de Christ, par le témoignage du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Donc, l'intercession va être ranimée elle sera ranimée par la compassion pour notre prochain. Selon 1 Timothée 2, je vais sauter le verset sur prier pour les autorités, il faut le faire, mais enfin, je ne vais pas mettre l'accent là-dessus maintenant, mais relire 1 Timothée 2, et le joindre, 1 Timothée 2, verset 1, et le joindre à 3 et 4. J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Vous savez qu'il y a un seul médiateur, c'est Jésus-Christ. Pour tous les hommes. Alors, il ne s'agit pas de maintenant aller sur lecal.ch et de prendre, par ordre alphabétique, on va se donner des portions de l'annuaire. Non, il ne s'agit pas de ça. Mais il y a quantité d'hommes et de femmes que nous côtoyons dans nos quartiers, au travail, dans nos relations. Il y a des hommes et des femmes que nous pouvons rencontrer. Nous pouvons prier, « Seigneur, mets des personnes sur ma route pour lesquelles tu aimerais simplement, modestement, je suis peu de choses, mais m'utiliser. » Les gens ont besoin d'être aimés, d'être écoutés, d'être considérés. Et après, ils entendront, dans la société actuelle, ils ont besoin d'être aimés, écoutés, considérés, qu'on ait un intérêt pour eux. Et quand ils sentent ça, ils sont prêts à écouter, parler, à entendre parler de la personne que nous avons rencontrée, Jésus-Christ. Et puis, naturellement, l'amour pour le prochain va conduire à l'évangélisation. À l'évangélisation, Marc 16, 15, aller dans le monde entier, annoncer la bonne nouvelle à tous les hommes. Et ce verset nous fausse parce qu'on est allé dans le monde entier, Seigneur, entremêle les missionnaires, tous ceux qui sont partis en Afrique, en Inde, etc. Mais vous sortez de la pélisserie, vous descendez dans les rues centrales et vous êtes dans le monde. Dans le monde à Genève, dans l'esprit du monde, n'est-ce pas? Donc le monde est là, il est là à la sortie de nos cultes et de nos lieux de réunion, il est là autour de nous, nous sommes dans le monde et nous avons besoin d'un renouveau par rapport à cet amour du prochain qui va nous remotiver pour dire, mais Seigneur, là où le péché abondait, la grâce a surabondé, alors cette parole subsiste, même si on a des signes d'apostasie qui augmente, tu peux encore sauver plein de personnes avant qu'il soit trop tard. Alors bien sûr, on va dire ce matin, comme certains parmi vous sont un peu plus âgés que moi, qui suis fraîchement à la retraite depuis le mois de janvier, mais toujours au service du Seigneur. On va dire ce qu'il faut, c'est surtout prier pour un réveil et prier pour la nouvelle génération, et c'est vrai. Si vous sentez, vous avez déjà fait une grande partie de votre vie, eh bien, vous pouvez en tout cas être un témoin auprès de personnes que vous côtoyez, de vos âges peut-être, de notre âge, et même auprès de plus jeunes. Beaucoup de jeunes recherchent des pères, parce qu'ils en ont manqué. Et puis nous voulons prier pour cette nouvelle génération. Ils ont peut-être un mode de vie différent, peut-être que dans certaines nouvelles églises, ils chantent les chants plus modernes, certes, qui peuvent nous surprendre, même parfois, mais Dieu peut encore toucher des âmes, peut encore toucher cette nouvelle génération. Est-ce que nous le croyons ? Moi, j'aimerais bien voir un jeune de 25-26 ans, comme Evan Roberts, mais à une autre époque, sortir du lot et devenir un évangéliste rempli du Saint-Esprit qui annonce Christ. Amen. Et puis, pour terminer, bien sûr que nous pouvons prier. La conviction de péché, le retour à la parole est un sujet de prière. La conviction de péché qui entraîne la repentance, la sanctification est un sujet de prière. L'amour renouvelé pour Dieu et l'amour renouvelé pour le prochain sont des sujets de prière. Mais on est obligé de se dire aussi, et qu'est-ce qu'il en est de mon réveil personnel ? Vous savez, dans nos églises, je termine avec ça, il y a toujours cette idée, moi j'ai entendu souvent au début quand j'ai commencé comme pasteur, il y avait des personnes dans l'assemblée qui disaient « Seigneur, envoie des ouvriers dans la moisson » et moi je rajoute en moi-même, sous-entendu, quelqu'un d'autre. « Envoie des missionnaires » quoi. Mais Esaïe, quand il s'est trouvé devant cette vision de Dieu, après avoir dit « J'appartiens à un peuple dont les lèvres sont impures, mais ils ont vu le roi, après avoir été purifié par cette braise » prise sur l'autel et maintenant c'est le sang de Jésus, il a dit « Me voici, envoie-moi ». Et je crois qu'un envoyé, ce n'est pas seulement quelqu'un qui prend un billet d'avion pour aller dans un autre pays, un autre continent. C'est quelqu'un qui a une mentalité d'envoyé dans ce monde, tout en restant à Genève. Et qu'en est-il de notre réveil personnel ? C'est une question qu'on peut se poser ce matin. Est-ce que j'ai besoin de me remettre davantage dans la parole, de vivre selon la parole ? J'ai besoin, dans certains domaines, de repentance, sanctification. Est-ce que mon amour pour Dieu s'est tiédi ? Et mon amour pour le prochain est atteint par l'indifférence qui est dans ce monde ? Parce que c'est vrai que ça commence par un réveil personnel. Lorsque dans le prophète Agé, il y a un constat de l'état du peuple et de la maison de Dieu, au chapitre 1, verset 12, eh bien, il est dit que Zorobabel et Josué, le souverain sacrificateur, et tout le reste du peuple entendirent la voix de l'Éternel et les paroles du prophète Agé, et le peuple fut saisi de crainte devant l'Éternel. Et le résultat de cette crainte, c'est au verset 14, l'Éternel réveilla l'esprit de Zorobabel et l'esprit de Josué et l'esprit de tout le peuple. Amen. Seigneur, merci parce que nous commémorons des réveils passés, le réveil passé, mais mets-nous à cœur cette génération. Mets-nous à cœur ce 21e siècle qui paraît fou, qui paraît tellement éloigné de toi, et pourtant tu es tout puissant pour toucher encore des cœurs, et pour toucher nos cœurs ce matin aussi. Que l'amour soit réveillé en nous, que l'action du Saint-Esprit dans notre conscience soit réveillée. Seigneur, renouvelle-nous, tiens-nous éveillés afin de pouvoir prier, que même si certains ne peuvent plus aller, on dira au front, ils sont un peu en arrière-garde, ils peuvent prier. Et que des jeunes se lèvent, des jeunes qui sauront comment atteindre ceux de leur âge, ceux de leur génération. Seigneur, tu es toujours le même, tu ne changes pas, dit ta parole. Alors nous voulons encore nous attendre à toi, nous attendre encore à l'action de ton esprit pour voir des vrais réveils. Pas juste des personnes qui sont remuées émotionnellement, mais des personnes qui vont se repentir et qui vont s'attacher à toi, Seigneur Jésus. Seigneur, merci d'agir dans nos cœurs ce matin. Merci de nous avoir parlé et j'espère que j'ai pu transmettre quelque chose à mes frères et sœurs et à moi-même parce que nous en avons tous besoin de ce renouvellement. Gloire à ton nom, Jésus. Merci pour ta grâce sur nos vies, mais que ta grâce ne nous tienne pas endormis, mais éveillés. Que ton esprit nous réveille, nous renouvelle, même si le combat semble rude. Avec toi, nous aurons des victoires, Seigneur. Merci de bénir cette communauté, merci de bénir ces rencontres qu'ils auront le week-end prochain. Mais merci surtout, Père, d'agir dans les cœurs ce matin par ton esprit. Au nom de Jésus. Amen.